Le poisson-chat était une créature avec laquelle on devait compter. Compagnon de jeu, boîte à ordures, il n'avale pas seulement vos boîtes de conserve, mais le papier, la paille de fer et les semelles de caoutchouc. Et, Dieu de la gadoue, on le révérait. On en riait et on le massacrait pour le manger. Non, le chat, le poisson-chat. Mot amer? Non, chat, chat, le poisson. Amer les mots. Non, le poisson-chat, les mots amers. Les poissons-chats, le mot amer. Non, poisson-chat et mot amer. Poisson-chat et mot amer. Poisson-chat et mot amer. Poisson-chat.
Poisson-chat et mot amer, numéro 188. Le monde crie. Et chuchotement. Poisson chat et moi mère, un magazine qui avale les mots épars, diffus, terribles, et les restitue sous forme de nouvelles, billets d'humeur, d'humour, carnet intime, carnet de voyage, recettes de cuisine anthropophage, rencontres, etc., etc. Puis les susurre à tes oreilles. Oh, auditeur émérite, cure-pipe. Et cure-dent. Rome est cette ville hyperbolique dans les goûts, les saveurs, l'hérésie du baroque, balcon joufflu, débordant de clématite, roseté, mur ocre délavé, défraîchi, crevassé, granuleux, palette chaude de couleurs, carte du tendre, or, arabesque, extase, élévation, annonciation, effraction, assomption. Enjeux musiciens, mosaïques, effigies, brocart, trompe-l'œil, bas-relief, enjambement, stuc, travertin, buste, porphyre, rocaille, frontispice, acanthe, treille, couronne, guirlande, entrelacs, tourbillon, gargouille, néréide, triton, coquillage, naïade, fontaine jaillissante, murmure de la pierre et de l'eau, égrenant la ville en chapelet de plaisir, glissant d'eau, flot de lumière en tranches napolitaines autour des sept collines avec le Tibre, au reflet céladon, comme une couleuvre lovée à ses pieds, un veilleur impassible, gardien du temple. Le baroque s'est effacé, tordre, pulvérisé, tout art est baroque. On peut regarder le même chef-d'œuvre des années après, il aura changé, ou plutôt, il nous aura devancé. Ce paragraphe est tiré de Du bonheur est un drôle de serpent. Ouvrage éclaté, tantôt roman d'amour, carnet de voyage, carnet d'esquisses, livre d'heures, recueil d'aphorismes, d'analyses sur la marche du monde, la métaphysique, bref de comptoir. L'intime et l'universel s'y rejoignent, ponctués, paragraphe par paragraphe, d'extraits du Yiking ou d'un livre de sagesse antique ou asiatique. Le roman pétille de dialogues, de références culturelles, peintures, sculptures, architectures, littérature, musique. Il traverse les mers, les continents, roman qui quête l'amour ou une idée de l'amour à travers le monde, du Mexique à la côte languedocienne, via Paris, Rome et enfin Madagascar. Léo, le héros, artiste caché, poursuit à l'instar de Pétrarque Salor en mission humanitaire. Ce livre, ponctué de nostalgie, de mélancolie, brille et brûle des éclats et lumières de ce bas monde. Rencontre avec son auteur, Raymond Alcover. Raymond Alcover, bonjour.
Bonjour.
Ce roman est votre troisième ouvrage. Mmh. Vous avez aussi dirigé une revue qui s'appelait L'Instant du Monde.
Oui.
Voilà, vous êtes entré en littérature il y a une dizaine d'années, on peut dire ça.
Oui, un petit peu plus, une quinzaine, on va dire. Enfin, j'avais d'abord commencé par des nouvelles, qui ont été beaucoup publiés dans des revues. Et puis à un moment donné, avec Fugue Baroque, je suis passé au roman, il y a à peu près une quinzaine d'années.
Vous faites essentiellement dans la prose, parfois, et c'est le cas dans ce roman, une prose assez poétique.
Oui, c'est pour moi, en fait, le roman, maintenant, je travaille surtout le roman, et m'intéresse parce que c'est un genre un petit peu attrape-tout, et effectivement, et j'essaie d'y mettre de la poésie.
Alors, j'ai eu un peu de difficulté à qualifier votre ouvrage. Certes, un roman où, sous-tendu par l'amour, peut-être un amour fou, ou même une quête, la quête de l'idée d'amour.
Oui, alors justement, le roman, comme je disais, c'est intéressant parce que c'est, à mon avis, aujourd'hui, c'est le genre un petit peu attrape-tout, donc on peut y mêler beaucoup de choses. C'est ce que j'ai essayé de faire. Il y a effectivement une histoire d'amour, il y a une relation au monde des personnages, il y a aussi un regard sur le monde d'aujourd'hui, et tout ça, effectivement, converge à un moment donné jusqu'à la fin du livre, ou dans une sorte d'unité.
Dans ce roman, on a l'impression que vous avez eu envie de tout mettre. Votre force de vie, votre force d'amour, de la nostalgie, de la mélancolie, et aussi cet amour pour le monde, c'est ça ?
Oui, effectivement, c'est vrai que j'ai eu envie un petit peu de tout mettre. Et effectivement, ça se termine, en fait, tous ces chemins effectivement dont vous avez parlé, je pense qu'ils sont là et ils convergent un petit peu vers la fin du livre, comme ça, dans une sorte de bordalie, d'assomption, un petit peu, où effectivement, qui dit une sorte d'amour du monde, oui.
Il y a beaucoup de références, j'allais dire, culturelles, philosophiques aussi. Alors, d'abord, l'image, beaucoup autour de l'image, la peinture, la sculpture, l'architecture de ces villes que votre héros traverse. Mmh. L'architecture est pour vous un élément important, un décor urbain ?
Oui, bon, en fait, tous les arts, j'allais dire, sont importants, donc... La peinture, oui, c'est un thème qui traverse un petit peu tout ce que j'écris. L'architecture aussi, puisque l'architecture est une création des hommes, et c'est aussi la relation qu'on a avec le monde. En fait, c'est tout ça tendant vers ce désir d'harmonie. C'est-à-dire donc l'architecture, c'est effectivement ce qui est au plus près de la vie, puisque c'est très concret en même temps. Et l'art, à mon avis, ça doit être ça. C'est justement quelque chose qui nous aide à vivre.
La musique aussi est importante dans cet ouvrage.
La musique aussi, oui, parce que la musique. Enfin, bon, pour moi, il y a trois formes d'art, c'est la littérature, la peinture et la sculpture, on va dire, et la musique, qui sont les trois formes d'art primordiales et qui sont dans un échange constant.
Votre héros, lui, c'est pas innocent, est dessinateur. On a l'impression qu'il passe son temps à faire des esquisses.
Oui, alors bon, c'est quelqu'un, bon, il est jeune et qui se cherche, donc effectivement, il dessine, mais il se sent incapable de passer à la couleur. Donc il y a effectivement, au départ du roman, en tout cas, quelque chose d'inaccompli, et effectivement, le mot esquisse est assez juste, c'est-à-dire que c'est sa recherche, en fait, il se cherche.
On a l'impression qu'il est bien partout. Alors il a une histoire, il a perdu ses parents très jeune, il a été un peu coupé de ses racines, mais en début de roman, on le trouve au Mexique, il fait un boulot, un job de serveur dans un endroit reculé, mais c'est isolé du monde, c'est perdu, mais il est bien. On le retrouve après à Paris, on le retrouve sur la côte languedocienne, il fait toujours le même boulot de serveur, il fait des esquisses, il est bien. Et pourtant, il y a une sorte de mélancolie en lui.
Ben, c'est-à-dire il est bien partout, effectivement, peut-être parce qu'il est sans racines, justement. Et c'est cette absence un peu primordiale qui fait qu'il est privé, peut-être. Il a été privé un petit peu de l'essentiel. Et oui, puis donc, mais en même temps, il est en relation un petit peu d'amour avec le monde, effectivement. Donc, mais ça, bon, enfin, je suis un peu de cet avis aussi. C'est-à-dire, je pense qu'on peut être bien partout. En fait, il y a de la magie partout. Il y a de... Donc... Bon, moi je suis assez attaché à cette région parce que j'en viens, mais je sais que je pourrais vivre ailleurs. Enfin, je pense que le lieu, pour moi, n'est pas très important.
Il y a beaucoup de travail sur la lumière. On parlait tout à l'heure de peinture, des esquisses. Mmh. Les lumières, vous parlez des lumières languedociennes, par exemple. Les lumières de la côte, l'aube, le coucher de soleil, le soleil en hiver, puisque le héros évolue en hiver, alors que la côte est déserte, il n'y a pas d'argent à y gagner.
Ben oui, à mon avis, une des grandes forces, j'allais dire, de notre région ici, c'est sa lumière. C'est effectivement, on est dans la lumière méditerranéenne, donc c'est un petit peu ce qui fait sa force, et en particulier ce littoral, qui est, que certains trouvent un petit peu ennuyeux. Moi, je ne trouve pas, en fait, les langues de sable, là, comme ça, où justement les couleurs du ciel, de la terre, de l'eau se mélangent, bon, là où, heureusement, elles ne sont pas bâties, sont magnifiques, parce qu'elles attrapent bien la lumière, justement, cette sorte de gris. Permet de refléter un petit peu toutes les lumières, et je trouve que bon, c'est pas par hasard si quand même beaucoup de grands peintres ont trouvé leur peinture en découvrant la lumière méditerranéenne. Donc je pense que cette lumière là a quelque chose de fort. Alors, ceci dit, bon, moi j'aime beaucoup la lumière plus douce aussi, par exemple de Paris. Ici la lumière est crue. Elle est forte. Et bon, les peintres sont là pour l'en montrer. Mais bon, il y a des lumières magnifiques partout.
L'héroïne du roman, l'amoureuse, mais c'est une sorte d'arlésienne. On la voit en pointillé, on la voit très peu. Elle est surtout dans la tête du héros, qui la rencontre une nuit, enfin, ou même une partie de la nuit au Mexique, et qui après lui envoie une lettre, comme ça, comme si jetait une bouteille à la mer. Mmh. Et quelques mois ou quelques années après, elle vient le voir.
Ben oui, en fait, si vous voulez, le roman, il est un petit peu construit sur l'opposition entre les deux personnages. Donc autant lui est quelqu'un effectivement qui est un peu à la croisée des chemins, qui se cherche, qui ne sait pas quel va être son avenir, qui est un petit peu dans le doute, dans l'interrogation. Et elle est à l'opposé de ce point de vue, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait très bien où elle va. Elle a fait des études de médecine, elle s'engage pour Médecins du Monde. Enfin bon, elle a un chemin tracé. Et donc, cette différence-là, en fait, qui les sépare, mais aussi qui les attire. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ne vont pas tout de suite être ensemble. Il faudra du temps parce qu'ils sont assez opposés l'un à l'autre. Et au fur et à mesure, bon, du roman, ils vont s'apercevoir qu'ils ne sont pas si éloignés que ça, et ils vont trouver un terrain commun. Enfin, mais c'est basé sur un petit peu la différence entre eux.
Alors, c'est un amour qui est presque impossible, puisqu'ils arrivent à se rejoindre, mais chaque fois brièvement. C'est un amour fou. Mais cet amour, c'est une sorte d'alibi au roman, c'est une sorte de fil rouge. Finalement, l'arrière, le décor et tout ce que vous y mettez, que ça soit les considérations sur le monde, la société d'aujourd'hui, une certaine nostalgie par rapport aux années 60 aussi, des considérations d'ordre métaphysique, on a l'impression que ce vivier est aussi important que la trame romanesque.
Oui, parce qu'effectivement, bon, j'ai voulu aussi qu'il y ait dans ce roman un regard sur le monde d'aujourd'hui. Donc je me suis un petit peu servi, on va dire, de cette relation amoureuse entre eux et de leurs différences, justement, pour faire qu'elle évolue. C'est-à-dire il y a d'autres personnages qui vont apparaître. Et effectivement, le personnage masculin va rencontrer des gens qui vont l'aider à réfléchir, qui vont l'aider à penser. Et c'est là où cette dimension apparaît, effectivement. Et puis, bon, tout ça se résoudra, si on peut dire, par un voyage dans un pays très pauvre, qui est Madagascar, qui là aidera encore plus le personnage à faire comprendre un petit peu, à relativiser tout ce qu'il vit, tout ce qu'il a vécu, et à lui faire comprendre un petit peu quels sont les vrais problèmes du monde aujourd'hui, je dirais, les vrais équilibres, ou les vrais déséquilibres plutôt.
Nous allons faire la première pause musicale de cette émission avec Gérard Mancé, Paradis, qui résume peut-être votre roman.
Ah.
Être en vie, c'est être un être. Tout connaître, paraît que c'est par ici que vit Mahatma le maître. Peut-on le toucher, le connaître? N'est-il qu'hérésie? Crois toucher du doigt le paradis. Gardez-vous. Cette douleur, écoute-la, écoute son chant. Je veux qu'on m'amène ici-bas, la vérité, son contenu. Cette phrase longtemps tenue, personne ne m'aime, crois toucher.
Son chat et Mohamed numéro 188, Le Monde, cri et chuchotement, toujours en compagnie de Raymond Alcover, qui vient présenter Le Bonheur est un drôle de serpent, un roman d'amour. Votre premier roman, c'était Fugue baroque. En introduction de l'émission, j'ai lu un texte sur Rome, où vous faisiez aussi le panégyrique du baroque. Hors antenne, vous me disiez que je sentais beaucoup d'amour pour ce style, mais que vous vouliez vous tendre vers plus de simplicité que le baroque.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir d'une écriture peut-être qui était dans les premiers textes plus baroques, il me semble en tout cas que je tends vers une écriture plus épurée. Voilà. Parce que l'écriture baroque, il me semble, il me semble que les écritures un petit peu boursouflées, avec le temps, vieillissent pas très bien. Enfin, je trouve que, moi, il me semble qu'il faut, tendre vers une épure.
Pourtant, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu en introduction sur Rome, où vous disiez que le baroque s'efface. C'est l'effacement, le baroque ?
Le baroque, c'est non. Le baroque, c'est toujours plus quoi. Le baroque, c'est outrepasser, c'est exagérer, c'est tendre, c'est effectivement pour créer une sorte de. Je crois que c'est dans le Fugue baroque. Je disais, c'est une illusion du bonheur qui finit par devenir bonheur quoi. C'est-à-dire que le baroque, c'est une façon justement par rapport à ce qui est parfois la sécheresse de la vie, une façon de la de la transcender en poussant les choses plus loin, en essayant d'exagérer, en essayant de éventuellement de travestir, de déformer, de rajouter, de boursoufler de façon à obtenir une sensation de plaisir.
Le baroque, c'est la vie ou peut-être dans votre cas, dans le cas de vos ouvrages, l'amour en trompe-l'œil.
Oui, enfin, je ne pense pas que l'amour soit un trompe-l'œil. Non, je crois que l'amour, il est vrai. Alors, effectivement, bon, par contre, par rapport aux difficultés, la vie est parfois dure. Donc, c'est vrai que le baroque, c'est une façon d'essayer d'oublier, une façon d'essayer de transcender.
Vous évoquez des villes de la région. Une qui m'est chère, il s'agit de Narbonne. Vous faites une promenade dans Narbonne, enfin, ou du moins c'est le héros, Léo avec Laure, et il la trouve italienne. Moi j'étais surpris par...
Mais j'étais assez étonné. Moi c'est une ville que j'ai découverte tard en fait, hein, donc qui n'est pas vraiment familière. Mais j'ai été très étonné, effectivement, en la découvrant donc relativement récemment. J'ai eu l'impression, j'avais l'impression d'être en Italie. C'est-à-dire qu'il y a un côté très, très sensuel, très, bon, avec comme ça, évidemment, une histoire très, très, très présente. Mais j'avais la sensation, alors que bon, je m'attendais plus à une ville plus espagnole, on va dire, hein, vu sa situation. Mais je trouve, alors est-ce que c'est ses origines romaines, sans doute, mais il y a quelque chose de très italien à Narbonne, de très sensuel, de très de l'ordre vraiment du plaisir, alors, de la beauté.
Paradoxalement, moi je la trouve plutôt grecque, voire ibère, quelque chose de...
Oui, c'est ce mélange. Oui, alors effectivement, il y a ce mélange en fait. Là, ce côté. Mais bon, moi, je m'attendais à voir plus une ville plus ibère. Et en fait, j'avais vraiment la sensation d'être sur une place d'Italie à des moments. Quoi. C'est ce mélange, je crois, qui fait sa richesse et sa force, effectivement.
De la cathédrale qui n'a jamais été terminée.
Oui, c'est étonnant ça quand même.
Oui, elle a été sans cesse reportée, elle a été même brûlée, une partie a été brûlée, et elle devait s'étendre jusqu'à la gare actuelle, ce qui aurait fait une basilique, enfin une cathédrale énorme. Mais de là, vous commencez à avoir des considérations métaphysiques, alors c'est peut-être pas du fait de la hauteur de Saint-Just, sur la vie et sur la mort, vos deux héros. Où on parle de la vie et de la mort, et il y a Dieu qui passe en rase-motte.
Oui, oui. Oui, un peu plus qu'en rase-motte, d'ailleurs.
C'est mon côté mécréant.
Mais oui, donc de cette cathédrale, il ne reste que le cœur. Quoi. Donc, effectivement, et du coup, elle est toute en élévation. Quoi. Oui. Alors, c'est ce qui la rend à la fois complètement étrange et en même temps qui fait sa particularité, et c'est que du coup il reste plus que l'élévation, quoi. Voilà, donc bon, il se trouve qu'effectivement ça va correspondre à un moment entre les deux personnages, et effectivement ils vont avoir un échange du coup sur la question de Dieu, oui, qu'on ne peut pas, enfin me semble-t-il, ne pas se poser.
Il y a une réflexion métaphysique, alors ne serait-ce que du fait de la structuration du roman, chaque chapitre est introduit. Alors je vais être approximatif, j'avais l'impression que c'était des pages du Yiking ou d'un livre de sagesse asiatique.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Ouais, c'est en fait. Donc, le Yiking est fait de 64 hexagrammes, et donc chacun des 12 chapitres du livre, en introduction, j'ai mis un hexagramme, donc dont l'esprit correspond au chapitre. Voilà. Donc c'est une façon un petit peu de donner un autre niveau de lecture. Et en même temps, bon, de faire référence à ce livre qui est pour moi assez important, qui est à la fois le plus ancien texte philosophique de la Chine, et qui, en même temps un outil de divination aussi, et qui est basé, effectivement, parce que bon, la Chine, c'est quand même quelque chose qui est important pour moi aussi, sur le principe d'harmonie. C'est-à-dire qu'effectivement, le cœur, on va dire, du système de pensée chinois, il est basé sur l'harmonie entre soi et le monde. Donc c'est aussi ça que traduit le livre. Et ça, sa construction.
Alors, harmonie, certes, mais immense boulégadis, puisque ça bouge, ça secoue. Là, je vais me permettre de lire un passage. Des images apparaissent dans le champ intérieur. Débarrassez-vous de vos idées préconçues. Survient quelque chose de très important que vous devez découvrir. Prenez de la hauteur pour examiner la situation présente. Si vous restez bien centré, le monde entier se dessinera sous vos yeux. Les choses sur lesquelles vous tentiez d'exercer une influence se feront d'elles-mêmes. Observer comment le ciel se meut à travers les forces célestes permet de voir le temps qui convient à chaque chose. Mmh. Alors il faut lire entre les lignes.
Ben oui, ce sont alors bon, effectivement, ce sont des interprétations. Bon, ce sont des textes très symboliques. Donc, mais c'est un livre qui est pas comme les autres, le Viking, puisque vous lancez des pièces et puis ça vous posez une question par rapport à un problème que vous avez et ça vous donne des lignes de conduite. Donc c'est un outil d'aide aussi. C'est pas qu'un livre. Alors bon, effectivement, c'est un livre très très empreint de sagesse, de philosophie. En général, c'est plutôt quand même de l'ordre de c'est plutôt apaisant, on va dire. Mais bon, ça peut être aussi il faut bouger, il faut enfin bon. Le principe chinois n'est pas un principe d'immobilité, il est un principe de transformation, c'est-à-dire de mutation constante. Mais donc justement, il n'y a qu'une chose stable, c'est le changement, disent les taoïstes. Donc le monde est constamment en train on est tout le temps en évolution. Et donc le Yiking, c'est un outil qui permet de pouvoir s'adapter mieux peut-être à cette évolution. Donc c'est pas quelque chose du tout de figé.
Votre héros, Léo, à un moment, lorsqu'il est sur la côte languedocienne, sur Montpellier, renoue avec son passé, avec justement des gens qui ont fait une revue, qui, mmh. Paradoxalement ou bizarrement, avait le même nom que celle que vous aviez dirigée.
Oui. oui. Non, c'était une façon aussi. J'avais envie un petit peu d'en parler. Donc c'est une revue qui s'appelait L'Instant du Monde. Donc où il y a eu 8 numéros qui sont parus donc dans les années 2002-2004 et qui était basée là aussi sur la rencontre en fait entre le texte et l'image. C'est-à-dire que pour être dans la revue, il fallait qu'un peintre, ou un photographe et un écrivain d'autre part aient travaillé ensemble. Donc c'était aussi une envie de un peu d'essayer de croiser les univers quoi. Effectivement, je crois qu'on est à un moment, enfin je pense que j'y viens aussi dans le livre après, on est à un moment quand même où de nouveau il faut on est dans un, enfin il y a un isolement de plus en plus grand, il me semble, des gens. Et ça, c'est le système dans lequel on est qui le veut. Donc, je pense que pour lutter contre ça, j'allais dire, il faut faire des choses ensemble. Il faut se rencontrer, il faut créer ensemble. Et c'était l'objectif de cette revue. Effectivement, ça peut être... moi, ça m'est arrivé souvent, j'aime bien travailler avec des peintres, effectivement, l'idée, c'est d'aller d'aller chercher des choses en soi qu'on n'avait pas. Donc travailler avec une œuvre picturale qui n'est pas la sienne ou qui n'est pas de son univers, ça va permettre de découvrir des choses en soi qu'on ne connaissait pas, d'aller ailleurs, d'aller plus loin, et réciproquement pour l'autre artiste.
Je me souviens de la qualité de l'iconographie et de la mise en page de cette revue, qui me paraissait être une revue luxueuse, qui devait avoir un coût.
Et oui, c'est bien pour ça, d'ailleurs, que nous avions été obligés d'arrêter. On a fait quand même 8 numéros, je trouve que c'est pas mal. Oui, le problème, c'est ça, c'est que étant effectivement en quadrichromie, donc tout en couleur, ça avait un coût, et c'était dans un cadre associatif, et à un moment donné, bon, il s'est avéré que ça a commencé à coûter de l'argent à l'association. Donc c'était une association qui avait un but humanitaire, on a préféré arrêter. Mais bon, je trouve que 8 numéros, c'est quand même... Mais content d'avoir fait ça. Parce que bon, en plus, ça a été plein de rencontres. Quoi, parce qu'effectivement, du coup...
Et justement, ça offre dans cet ouvrage une galerie de portraits, une galerie de personnages, de Guillaume, en passant par Lilian, on pourrait reconnaître certaines personnes.
Oui, il y en a certains qui se sont reconnus là-dedans. Oui, non, mais c'était aussi, j'avais envie de parler de certaines personnes qui ont été importantes pour moi aussi. Et à travers là, parce qu'en fait, le personnage aussi, c'est à travers certaines personnes plus âgées que lui, justement, qui vont lui permettre d'évoluer, de faire un peu son éducation philosophique. C'est un peu, puisque le roman est quand même construit un peu comme un voyage initiatique, et c'est aussi à travers d'autres personnes qui sont parfois des écrivains, parfois pas, enfin qui vont l'aider un petit peu à grandir aussi, à réfléchir et à mieux penser le monde en fait, parce que il y a quand même cette opposition, on va dire, au départ entre les deux personnages, entre Léo et Laure, c'est que bon, elle s'engage, elle est dans l'action, et lui il est dans le questionnement. Bon. C'est ce qui attire l'un. Bon, ce qui attire Léo, c'est l'engagement. Finalement, il trouve ça magnifique de Laure. Et elle, finalement aussi, elle se dit, elle l'aide à réfléchir, quoi. C'est-à-dire que bon, après, ils trouveront un moyen terme, mais je pense bon, il y a toute une réflexion sur l'engagement, mais je pense qu'aussi, effectivement, on est quand même à un moment où aussi il faut vraiment penser les choses. Parce que là, on est quand même dans une période de l'histoire un petit peu particulière quand même, où on est face à des échéances quand même assez difficiles. Donc il faut, il me semble, réinjecter de la pensée maintenant.
Il y a un personnage qui est un guitariste, un musicien hors pair, mais qui a sombré dans l'alcoolisme.
Mmh. Et oui, ça c'est là c'est véritablement autobiographique. Enfin, c'est un ami qui est plus de ce monde, hélas, et effectivement qui était un très grand musicien et qui a effectivement sombré dans l'alcool. Et ça c'était très dur parce que on avait l'impression qu'on pouvait rien faire. Enfin, c'est l'alcool qui s'était emparé de lui et toute la magie qui se dégageait de lui, de ce qu'il était, de sa façon de jouer de la guitare. À un moment donné, c'était ruiné, et puis c'est allé jusqu'à la mort.
Alors vous évoquiez un morceau qui jouait excellemment bien, il s'agit de Samba Patti, là on va retrouver le créateur, Santana.
Voilà. Thank you.
Poisson chat et moi mère, numéro 188, Le Monde, cri et chuchotement, toujours en compagnie de Raymond Alcover pour son ouvrage Le Bonheur est un drôle de serpent, publié aux éditions Lucie. On a parlé des principaux personnages, Léo, Laure, on a parlé de personnages annexes. Il y a aussi des artistes, et notamment un écrivain qui réapparaît souvent. D'abord parce qu'il a été lu aussi au Mexique, il en a fait un ouvrage. Il a eu un destin un peu terrible aussi, il a fini alcoolique, et ça a été un peu une étoile brisée. Il a eu un frère qui est décédé jeune. Vous l'évoquez aussi, il s'agit de Jacques Kerouac. Jacques Kerouac, c'est un élément important pour l'auteur que vous êtes.
Oui, parce que c'est surtout ce livre qui s'appelle Sur la route, hein, qui effectivement, moi c'est un livre que j'ai lu, bon, je devais avoir 18 ans, quelque chose comme ça, qui m'a effectivement un petit peu, qui m'a vraiment secoué. C'est-à-dire que c'est, j'allais dire que j'avais peut-être, enfin en tout cas d'un point de vue littéraire, une éducation assez classique. Et là, tout d'un coup, j'ai découvert une autre façon d'écrire, qui correspondait aussi d'ailleurs à une autre façon de vivre. Et c'est un petit peu un grand souffle de liberté qui a soufflé, quoi. Et donc, qui m'a aidé à ce moment-là à voir un petit peu le monde différemment. Et donc là, j'imagine effectivement que ce personnage, à 18 ans aussi, ce livre l'a bouleversé et il a envie un petit peu de partir un peu sur la route, hein, comme l'a fait Kerouac. Et effectivement, dans ce fameux livre, il y a une passage vers la fin qui est l'arrivée au Mexique, qui est un petit peu de l'ordre de la magie, et cette magie-là que veut retrouver Léo en partant au Mexique aussi.
Sur la route, il y a cet autocar qui est important, où il fait des rencontres, qui fait des rencontres avec une jeune indienne notamment. Et le héros de votre livre, Léo, cet autocar, il le dessine avec justement la personne aimée, et on ne sait pas s'il arrive ou s'il repart, cet autocar.
Oui, ça c'est un petit jeu en fait autour de leur rencontre, et dans la mesure aussi où lui dessine, donc ça va être un petit peu, ce dessin va être le lien et qui va un petit peu jusqu'à leur nouvelle rencontre.
Vous parlez aussi de choses très actuelles, la crise, la fameuse crise, bien sûr. Depuis des mois, dans mes lectures, les conversations que j'avais avec les uns et les autres, je m'en doutais, ça ne pouvait qu'arriver. Et ce n'est pas fini, cette crise est la concrétisation du processus de destruction en cours. Tu te rends compte, outre le désastre écologique, en fait c'est la même chose. Moins de 2% de l'humanité possède la moitié du patrimoine. La réalité est élastique, elle peut absorber d'énormes en zone de choc, mais jusqu'à un certain point. Ensuite, quand les révolutions arrivent, elles emportent tout, même ceux qui les font. Parfois, je me dis, on a aussi peu de chances de réussir sa vie que le taureau quand il entre dans l'arène, d'en sortir vivant, et pourtant, cette chance existe.
Oui, non, là,
c'est perturbant.
Non, mais je crois qu'effectivement, on est à un moment un peu, enfin, il me semble charnière. Enfin, je crois que cette crise et le désastre écologique en cours sont effectivement des symptômes d'un système qui est en train d'agoniser. Enfin, je pense qu'on est à la fin de quelque chose. Alors, cette fin, malheureusement, peut durer, hein. Je suis pas prophète, mais manifestement, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc, fait nouveau quand même, effectivement, ça s'est déjà arrivé maintes fois dans l'histoire. Cette fois, effectivement, c'est l'humanité en tant qu'espèce qui est face à sa propre disparition, quoi. Donc là, il n'y aura pas de seconde chance. Donc, à mon avis, il va se passer des choses forcément. Et peut-être, et souvent, on a vu ça dans l'histoire, il faut malheureusement que les choses aillent loin pour que l'homme finalement réagisse. J'ai la sensation, hein, j'en sais rien évidemment, mais qu'on n'est pas loin de ce moment-là où effectivement tant de déséquilibres vont finir par nous obliger à une réaction collective. Enfin, de toute façon, s'il n'y a pas cette réaction, on va dans le mur. Donc, soit il y a une sorte d'instinct de conservation de l'espèce en général qui va se mettre en place, soit peut-être ce sera la fin, quoi.
Page 84, vous écrivez « Étrange 20e siècle qui a déroulé les pires abominations et vu naître en même temps des artistes fabuleux. Oui, mais la 68 a été une formidable révolution, explosion de liberté, pardon. Mais on a voulu refermer la porte. Aussitôt après, crise du pétrole, le chômage se développe comme une traînée de poudre et le retournement se met en place. Les années 80, on est en pleine à cette phase de décomposition, jusqu'à faire de 68 la cause de tous nos maux habiles, mais logiques retournements. Pour la plupart, les meneurs du mouvement et ceux qui leur tournaient autour profitent maintenant du système. C'est le coup classique, on les a achetés, attirés avec des hochets, pouvoir, argent, présence dans les médias, la culture. Ceux qui avaient sans cesse le mot de bourgeois à la bouche ont réalisé leurs rêves, ils le sont devenus. Mmh. Alors on sent à la fois de la nostalgie, mais une désillusion aussi.
Ben, la désillusion, enfin, je pense que manifestement, on est dans une période de désillusion, effectivement. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est que juste après, effectivement, cette explosion de liberté qu'a été mai 68, comme par hasard, j'allais dire, on a vu arriver cette crise mondiale qui est dans laquelle on est toujours, et même qui s'aggrave, qui fait qu'effectivement, et qui a abouti à un retournement. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une période où le conservatisme gagne du terrain, enfin, un petit peu partout. Donc, c'est. Il y a quelque chose de... On est dans une phase, je crois, assez négative. Il y a eu une explosion de liberté qui a été vite refermée, finalement. Donc, sauf que, bon, là, on est dans quelque chose maintenant qui ne fonctionne plus, quoi. C'est-à-dire que toutes ces fermetures, là, sont en train d'aboutir à quelque chose de très... pour le coup, de complètement fermé. Et donc, je pense qu'il doit y avoir une ouverture à un moment donné qui va se passer. Mais qui est difficile à voir. Parce que, enfin, je sais que beaucoup de gens sont conscients que quelque chose ne va pas, mais on ne sait pas trop comment prendre le problème. Sauf que là, peut-être, la menace vraiment sur la planète va faire qu'on va y être obligé.
À un autre niveau, vous parlez de l'art actuel et vous êtes assez amer par rapport à l'abstraction et l'éclatement de l'art aujourd'hui.
Je suis pas amer parce que bon, je pense que l'art abstrait, c'est une évolution logique et de l'histoire à un moment donné. Mais c'est vrai qu'il autorise des facilités, quoi. C'est vrai, bon, pour avoir quand même côtoyé pas mal d'artistes, bon, c'est un petit peu facile aussi. Là, effectivement, l'art abstrait autorise beaucoup de choses, voilà. Et quelque part aussi, on est dans un système aussi qui laisse à penser que tout le monde est artiste. Bon, peut-être c'est pas vrai finalement. Donc, mais peut-être c'est.
En même temps, vous parlez du marché de l'art, de la spéculation, il me semble.
Ah ben l'art est devenu. Oui, parce qu'effectivement, il est devenu. C'est une affaire d'argent, effectivement. Donc, et quelque part, c'est ce qui l'éloigne encore plus, puisque s'il est devenu. Il est devenu une valeur marchande, donc. Quelque part, les tableaux, enfin, les tableaux des impressionnistes sont devenus. Ils nous échappent complètement, quoi. Ils sont devenus des valeurs boursières, en fait, ce qui est une façon encore de les éloigner de nous, quelque part. Donc, le problème, c'est ça, c'est le système de l'argent qui s'insinue partout et qui est en train de détruire, je pense, une civilisation.
Et votre ouvrage semble dire que la solution, la survie, c'est presque la contemplation, c'est ça ?
Non, je crois pas. La contemplation, non, malheureusement.
D'une certaine beauté du monde, malgré.
Oui, c'est la beauté du monde, elle est là. Alors le problème, c'est qu'elle est en danger, d'une part. Et puis que le moment un peu particulier de l'histoire dans lequel on est fait qu'on ne peut pas... Il y a vraiment danger, quoi. Donc on ne peut pas se contenter d'être contemplatif. Enfin, moi, peut-être, j'aurais aimé être un contemplatif, mais là, je sens que c'est plus possible maintenant. Donc il va bien falloir prendre en main notre destin, parce que sinon, ça va mal se passer.
Le couple formé par Léo et Laure rencontre un autre couple, ami de Laure, qui est dans les Cévennes. Mmh. Ce couple est beaucoup plus âgé. Le Gilles a une soixantaine d'années. Mmh. Il a été ethnologue. Il a un peu baroudé. Il se retrouve dans les Cévennes. Mmh. Et lui aussi meurt. Mmh. Ce qui permet un voyage vers un pays qui lui était très cher, Madagascar.
Oui. Oui, alors effectivement, donc c'est un petit peu, j'allais dire, un peu c'est l'envers du monde, enfin c'est l'autre, parce que justement, tant qu'on vit dans notre monde occidental, on va dire, bon, malgré ces difficultés, quand justement on va de l'autre côté, on s'aperçoit que ce sont deux mondes radicalement différents. Donc, quelque part, le Madagascar, ce monde-là, c'est un petit peu l'irruption du réel, en fait, aussi. Et c'est aussi ce qui va le rattacher à l'or, puisqu'elle, de toute façon, elle s'engage, donc elle se bat pour, avec ces gens-là, quelque part. Donc, et lui, c'est là qu'il va vraiment comprendre l'engagement de l'or aussi. Et donc, ben, c'est effectivement, je crois que c'est... faudrait tous qu'à un moment donné, on voit ça, parce que du coup, après, le regard qu'on a sur notre monde d'aujourd'hui n'est plus forcément le même.
Troisième pause musicale de l'émission, Sweet Jane. On va écouter l'intro, puisque le morceau fait 8 minutes, je crois.
C'est surtout l'intro qui est bien.
Voilà. Ouais. Je ferai la plaisanterie. Un chat et moi-même, numéro 188, le monde, cri et chuchotement, Raymond Alcouvert est près de moi. Il adore l'intro, pas la suite du morceau.
Si, j'aime bien la suite. Non, mais cette intro est un peu, enfin, c'est un enregistrement public.
C'est marrant parce qu'on dirait les Who.
Oui, oui, non, c'est sûr qu'il y a. Bon, après, c'est. C'est Lou Reed, là, il a pris des musiciens de rock, donc c'est des rock'n'roll de studio, donc vraiment, c'est là. Mais cette intro, j'ai toujours bien aimé cette intro avec ce beau duo de guitare, là, qui me plaît beaucoup.
On revient à Le bonheur est un drôle de serpent, page 108. Je vis un moment de temps pur. Je sens autour de moi les ramifications du monde, ces ondes nerveuses, toute cette énergie. La capter, la traduire, la rendre, la plus grande beauté est éphémère mais permanente. J'ai trouvé l'angle, l'arme fatale pour déjouer le complot. Le temps. Quitter celui de la consommation, de la culpabilité, de la haine, du ressentiment. Le temps réellement vécu, c'est la gratuité. À l'encontre de l'obsession à vouloir tout vendre. C'est l'amour, la poésie, la liberté, l'éternel retour. Vivre chaque instant comme s'il devait exister à l'infini. Et là, miracle, il prend de l'épaisseur, une densité. Là, et le Satori, caché sous la cendre, retenu prisonnier sous des couches de civilisation, le monde s'illumine, s'ouvre, aérien, léger et dense. Comme la matière faite de vide, nous ne sommes que des particules, un bloc de temps pur, vivace, intense, sulfureux, tremblant dans la fine lumière du soir, vent coulis instillé à l'intérieur des fuseaux horaires retrouvés, vivables, tout d'un coup, jouissifs, sensuel. Là, c'est le Raymond Alcouver humaniste, presque
Nietzsche.
Oui,
parce que bon, non, c'est qu'il y a en fait cette découverte. Enfin, on n'en parle pas souvent, je trouve. C'est dommage. Il y a cette notion d'éternel retour qui est un petit peu en fait le fait de la pensée de Nietzsche, effectivement, qui est. Ça a l'air simple comme ça, ça l'est, mais qui est de dire effectivement. Vivre chaque instant comme s'il devait durer éternellement. Et effectivement, ça, si on se met à faire ça, on s'aperçoit que le temps est différent. Quoi. Le temps prend de l'intensité, il prend de la force et c'est tout notre rapport au monde qui se transforme. Et c'est un petit peu ce que j'ai essayé de décrire là. C'est une sorte de processus de cathartique un petit peu comme ça. Mais qui est un petit peu fondamental. Effectivement, la fin du livre est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, il y a un petit peu cette recherche et cette découverte un peu de l'unité. De l'unité à la fois donc, dans la rencontre entre les deux personnages, entre son rapport au monde, sa compréhension du monde, et qui va se faire effectivement dans un pays très pauvre. Là aussi, il y a l'unité des deux entre les deux faces du monde, en fait.
Trois ouvrages en 15 ans, ça va... Piano.
Ouais, ça, oui, je suis assez lent, quoi, en fait. Je suis pas un rapide. Non, c'est que j'ai... Je travaille assez lentement, quoi. Effectivement, je réécris beaucoup, je vais assez lentement.
Pour un ouvrage comme celui-ci, vous avez la trame au départ. Comment vous avez travaillé ?
Ben, en fait, il y avait au départ, comme souvent d'ailleurs, je suis parti d'une nouvelle que j'ai continuée et à un moment donné, il y a 10 ou 12 ans, j'avais en fait les deux premiers tiers, on va dire, c'était surtout en fait centré autour de l'histoire d'amour et puis donc là, il y a deux ans, j'ai repris ce manuscrit et j'ai voulu, j'ai rajouté toute la fin en fait, qui est justement un petit peu toutes les, j'avais envie de un peu me questionner, de parler du monde d'aujourd'hui. Donc j'ai rajouté toute la partie un petit peu plus philosophique, on va dire, qui est à la fin, et également le final à Madagascar. Voilà. Donc il a été un peu en deux étapes, en fait, ce livre.
Donc là, vous venez de publier celui-ci, le prochain dans 5 ans ?
Peut-être, oui.
Non, c'est pas une critique.
Non, là, j'ai envie de faire autre chose complètement. Parce qu'en fait, bon, c'était un petit peu les trois, là. C'était un peu un cycle, en fait, qui se termine avec celui-là. Et je voudrais faire quelque chose d'un peu plus... peut-être plus tramé, plus... parce que là, bon, ce sont les trois livres, quand même. Il n'y a pas une construction dramatique très, très, très forte, quoi. C'est plus un travail sur l'écriture, plus sur le contenu. Et là, j'ai envie de faire autre chose, peut-être, de plus construit de manière dramatique.
Et au niveau d'autres styles, ça rejoint une question du début de cette rencontre. La poésie, par exemple, on sent que vous avez peut-être des performances, là, des qualités.
Oui, c'est vrai que ça a toujours été, depuis que j'écris, j'essaie toujours de travailler la forme, enfin d'essayer de faire apparaître un petit peu de beauté dans l'écriture. Donc il y a effectivement, d'ailleurs, j'ai un livre prochain qui va apparaître là, au mois de mars, qui est de la prose poétique, justement, écrite aussi il y a quelques années. Donc ça, ça ne me quittera pas. Mais disons que j'ai envie d'aller vers quelque chose de plus épuré, de plus simple, bon, ce qui n'exclut pas la poésie d'ailleurs, hein, la simplicité n'exclut pas la poésie, au contraire. Mais j'ai envie d'aller vers quelque chose de plus accessible. Voilà. En fait, j'ai pas envie de... L'élitisme, ça ne me plaît pas. Voilà. J'aimerais être lu par plus de gens. Quoi, en fait. Voilà.
Donc, vous écrivez tous les jours ?
Ça dépend des moments. Quand j'ai des sujets, oui, mais il peut arriver. Je n'écris pas systématiquement tous les jours. Non.
Et vous êtes un grand lecteur ?
Oui, je lis beaucoup, par contre. Oui, oui. Je lis beaucoup. Je lis beaucoup de classiques, en fait. Je suis plutôt quelqu'un qui relit. Voilà. Je lis relativement peu de romans contemporains. Par contre, tous mes textes un petit peu fondateurs, je les relis très souvent.
Le bonheur est un rôle de serpent et est composé en grande partie de dialogues. Mmh. Les dialogues sont importants, sont vivants d'ailleurs.
Oui, alors justement, c'est un peu quelque chose que je voulais essayer parce que je n'ai pas, jusque-là dans mes livres précédents, je n'avais pas tellement pratiqué. Donc j'ai essayé de me lancer un petit peu là-dedans parce que bon, ce sont un petit peu plus des dialogues philosophiques. C'est ce qui permet effectivement aux personnages d'échanger, de se rencontrer. Oui, le dialogue par excellence, c'est l'échange, c'est la rencontre, c'est l'intelligence. Hein. On n'est pas intelligent tout seul, donc c'est toujours dans la discussion que naissent les choses. Donc c'était un petit peu pour faire apparaître ce côté-là. Mais ce ne sont pas vraiment des dialogues qui font avancer l'action, on va dire. Voilà.
Après, vous avez aussi talent pour la description des paysages. Tout à l'heure, on parlait des lumières de la côte languedocienne, mais aussi des paysages, des architectures, de...
Oui, ça c'est vrai que c'est une des choses que j'aime le plus faire effectivement, c'est que je ce côté la lumière, j'aime bien décrire par des images comme ça, des lieux, et c'est ce qui me rapproche effectivement de la peinture aussi. C'est quelque part c'est la beauté du monde qui est là quoi. Donc essayer par le langage de la traduire.
Là, ce que vous avez fait avec l'Instinct du Monde, cette aventure en 8 numéros, vous avez mis une croix dessus ou vous avez des envies éditoriales de reprendre ce travail en collaboration avec des peintres ou des photographes, des plasticiens ?
Ben, je le continue d'une certaine façon parce que bon, je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, vu les contingences économiques et le coût du papier et ce genre de choses et l'évolution, je crois que c'est plutôt ce genre de choses peut se faire sur Internet. Alors, donc je le fais j'essaie de le faire par deux moyens, par un blog. Je tiens un blog où il y a beaucoup de place qui est laissée à l'image et aussi par le. Peut-être vous avez entendu parler de l'association Autour des auteurs qui regroupe les auteurs du Languedoc-Roussillon. Donc on a un magazine sur le site internet, donc avec notamment Françoise Renaud, je travaille là-dessus. Et donc qui nous permet on publie des textes et toujours on les met en relation avec des images. Donc ce dialogue texte-image, je le continue.
C'est vrai que ce site a une qualité éditoriale, iconographique. Mmh.
Voilà. Et alors, il me semble qu'aujourd'hui, Internet autorise ça avec un coût minime et facile d'utilisation. Alors qu'aujourd'hui, des revues papier, bon, en plus, comme on le disait, des revues en quadrichromie, bon, ça a un coût vraiment prohibitif, quoi. Donc, voilà. Alors, Internet, là-dessus, bon, quand même, permet des échanges et des rencontres.
Dernière pause musicale de l'émission, il s'agit de Bach, par Glenn Gould.
Ah ben là, on est dans la perfection.
Poisson chat et mot amer, numéro 188, le monde, cri et chuchotement. On arrive à la fin de cette émission. Vous suiviez ce morceau avec ferveur. Bach.
Oui, Bach, c'est extraordinaire. En plus, Glenn Gould, je crois, qu'a vraiment capté l'esprit de Bach, arrivé à cette lenteur et à cette beauté. Enfin, je trouve que là, on est dans un sommet de quelque chose.
En quelques mots, votre prochaine publication, mars 2010.
Oui, alors là, ce sera justement de la prose poétique. Alors, ce sont des textes sur lesquels j'ai travaillé. Enfin, je me suis inspiré de la vie du poète Saint John Perse, et donc sur le thème de l'exil, parce que donc plusieurs fois dans sa vie, il a vécu l'exil. Et donc voilà, donc c'est une série de textes. Alors là, il y a une petite trame, mais c'est essentiellement de la prose poétique. Aux éditions, ça va sortir aux éditions NDB, qui était mon premier éditeur.
Raymond Alcouvert, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le bonheur est un drôle de serpent, publié chez Lucie Éditions.
Merci, au revoir.
Poisson chat et moi-même, numéro 188. Le monde, cri et chuchotement. Fin de l'émission. Fin de l'émission dans laquelle vous avez pu entendre Raymond Alcouvert présenter son troisième ouvrage, Le bonheur est un drôle de serpent, publié, je le redis, chez Lucie Éditions. Vous avez pu ouïr au cours de cette émission Paradis de Mancé, Gérard, Samba Patti de Santana Carlos, Sweet Jane de Reed, Lou, et enfin un morceau de Bach par Gould Glenn. Poisson chat et Mohamed est une émission conçue et réalisée par Dominique Osnac. Merci à l'efficiente et très jolie Julia pour la réalisation technique. Allez, allez au Beléo et à d'ici.